Mercredi soir de foot sur RTL L'Équipe, Salim Bongali.
20h03 sur RTL L'Équipe. Bonsoir à toutes et à tous sur votre radio du sport et de l'information pour lundi soir de foot, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à toute l'actualité de la Ligue 2, du National, du CFA et du foot féminin. Voici le programme de ce lundi 2 mai 2011. Dans un instant, la conclusion de la 33e journée de Ligue 2 et le choc entre Evian, Thonon, Gaillard et Le Mans. Deux équipes avec un seul objectif, la montée en Ligue 1, enjeu et composition des formations dans un instant. Avant les débuts du match, à 20h30, une grosse page Ligue 2 avec tout d'abord le club de Troyes en grande difficulté. Eric Maristre, son capitaine, sera avec nous. Puis on reviendra sur l'ensemble des matchs de vendredi avec les différentes réactions des acteurs des rencontres. À la mi-temps, on parlera national avec Azzedine Meghelati, l'entraîneur d'Alfortville, qui reviendra lui sur le parcours compliqué de son club qui descendra sans doute en CFA. Enfin, vous le savez, vous en avez l'habitude, auditrices et auditeurs de RTL L'Équipe. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur nos différents moyens de communication. Notre mail, contact@rtl-l'équipe.fr. Je répète, contact@rtl-l'équipe.fr. Également, l'onglet, contactez-nous sur notre site internet www.rtl-l'équipe.fr. Enfin, le réseau social Facebook et le mur du groupe RTL L'Équipe. Et ce, jusqu'à 23h lundi soir de foot. Donc, entre 20h et 23h, vous êtes bien sur RTL L'Équipe. C'est parti.
RTL L'Équipe, lundi soir de foot, la Ligue 2.
Et vous en avez l'habitude évidemment sur RTL L'Équipe. On va d'abord évoquer la Ligue 2 et revenir notamment sur la dernière journée qui a eu lieu ce vendredi et notamment sur une rencontre très importante avec le club de Troyes qui s'est incliné à la maison face à Nîmes 3-1. On va en parler de cette rencontre avec l'entraîneur, le capitaine de Troyes qui est avec nous, Eric Maristre. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
Merci beaucoup. 4 matchs sans défaite. Telle équipe, Eric. Tout d'abord, un retour donc sur cette rencontre, un retour un peu à froid donc quelques jours après ce match. Comment vous avez pu perdre cette rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah écoutez, pour nous déjà c'est bien sûr une grosse déception parce qu'on avait vraiment à cœur de conclure sur une victoire pour assurer notre maintien. Bon, on n'a pas mis toutes les choses de notre côté pour obtenir cette victoire contre une équipe de Nîmes qui n'était pas non plus dans un grand jour, mais il aura fallu de peu de choses pour pouvoir l'emporter, parce qu'on n'a vraiment pas été à notre niveau et c'est les autres logiquement qui sont imposés au stade de l'Aube.
Ce sont les mots de Jean-Marc Furlan, notamment à l'issue du match, il vous avait expliqué cela, que lui-même ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé.
Bah, c'est clair, bah, nous on avait à cœur de bien débuter le match qu'on a fait, on ouvre la marque assez rapidement et on a senti que à l'égalisation qu'on était complètement effondré et on n'a pas su relever la tête et continuer à jouer sur nos valeurs. On a complètement déjoué et on a laissé Nîmes nous battre sans réagir. Donc c'est clair qu'après un match comme ça on peut avoir que de la déception.
Aujourd'hui, Eric, vous êtes 16e au classement. Il y a une période durant la saison, en début de saison notamment, vous étiez 3e, 4e, 5e, bref, en haut de tableau. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette période et aujourd'hui?
C'est tout simple. Je pense qu'au début de saison, on était tous très très attentifs et très concentrés sur nos matchs parce qu'on se sentait en danger et on voulait faire un bon départ pour montrer qu'on était pas en Ligue 2 par hasard et qu'on méritait notre place. Et ça fait que tout le monde était toujours bien attentif et les résultats ont suivi. Ensuite, on a vu qu'on a eu une grosse période de moins bien entre novembre et décembre. On a gagné peu de matchs, que les équipes nous attendaient et savaient qu'on était une bonne équipe qui jouait bien au ballon. Donc ensuite, on a eu de moins bons résultats. On a réussi à remettre un coup de colis à partir de janvier où on faisait un très beau parcours à domicile sans prendre trop de points à l'extérieur, mais on gagnait à domicile, donc ça nous a permis encore de rester au contact des prétendants à la montée. Et puis là, depuis quelques temps, depuis 6 matchs, on n'arrive plus à gagner à domicile, on ne fait pas à l'extérieur, donc au final on descend logiquement au classement on se rapproche de la zone rouge dangereusement. Donc voilà, maintenant c'est à nous de mettre toujours notre destin entre les mains, il ne faut pas paniquer. C'est vrai que depuis quelques années, on a du mal à conclure nos saisons, que ce soit pour une montée ou pour un maintien. Mais l'année dernière, ça nous a souri, même si c'était à l'avant-dernière journée, on a réussi à remonter en Ligue 2. Donc on espère que cette année, ça sera pareil et qu'on va obtenir ce maintien le plus vite possible.
Mais vous l'avez dit, en début de saison, vous étiez concentré sur le fait de montrer aux autres au final que Troyes méritait sa place en Ligue 2. Est-ce que, je vais me permettre de vous poser cette question, certains, peut-être vous-même, je ne sais pas, vous êtes vu presque trop beau en début de saison avec ces places en haut de tableau justement?
Trop beau, non, nous on sait qu'on a un beau jeu. Je pense qu'on doit faire même partie des plus belles équipes au niveau du jeu dans ce championnat. Après, c'est vrai que depuis quelques temps, on a du mal à mettre ce jeu en place du fait que les équipes nous attendent beaucoup plus et se méfient de notre jeu. Maintenant, on a un groupe aussi qui est assez jeune, qui a peu de joueurs qui ont beaucoup de matchs à ce niveau, et à un moment donné, la vérité nous rattrape. Mais comme je vous dis, on est quand même confiant. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais voilà, on est confiant et voilà, il faut se remettre au travail et puis obtenir ce maintien. Il nous manque pas beaucoup de temps, il n'y a pas de raison que ça passe pas.
Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, ce terme, la peur. Vous avez peur, Eric, de descendre éventuellement?
Oh, bien sûr, tout le monde a peur de redescendre. Ça serait une grosse catastrophe de redescendre encore une nouvelle fois. Ça serait une catastrophe pour le club, pour les supporters, pour tous les joueurs. Ça serait vraiment, vraiment grave. Donc non, bien sûr, on a peur, mais on reste confiant parce qu'on sait qu'on a toutes les qualités, les possibilités de se maintenir. Et comme je dis, on a encore largement notre destin entre les mains, et il n'y a pas de raison que ça ne passe pas et qu'on n'a pas perdu tout notre football, et on ne va pas dire ça toute cette saison sur ces derniers mois.
Et c'est vrai que quand j'évoque la peur de descendre éventuellement, quand on voit le programme, le temps des trois prochains matchs, vous allez au Havre, vous recevez Le Mans, vous allez à Évian-Thonon-Guéard, bref, trois prétendants à la montée. On peut se dire que le programme troyen est relativement chargé.
Oui, c'est clair, mais ça peut être aussi bien pour nous, puisque ces équipes-là jouent la montée, nous on joue le maintien, mais cette année on a souvent fait de gros matchs contre ces grosses équipes, donc c'est peut-être le bon moment encore pour nous de montrer qu'on a le niveau, et que malgré qu'ils soient devant nous et qu'ils jouent la montée, on peut leur tenir tête et obtenir un résultat face à eux. Donc non, au contraire, on a rien à perdre dans ces rencontres-là, et ça sera plus le moment de se lâcher, de montrer ce qu'on sait faire.
En tout cas, Eric, vous sentez ce groupe soudé derrière cet objectif, le maintien?
Oui, bien sûr, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là, tout le monde est soudé, mais voilà, c'est vrai que sur les dernières rencontres, on voit voilà, qu'on a du mal à conclure, et surtout un manque quand même de caractère, et voilà, il faut vite relever la tête, et puis voilà, je vous dis, on n'a pas plus d'inquiétude que ça, on est obligé d'avoir peur, parce que ça serait dramatique une descente, mais voilà, on est concentré, on est prêt, et voilà, je vous dis, ça va aller, et je pense bien qu'on va même créer la surprise en se maintenant plus vite possible en obtenant des points contre ces prétendants à la montée.
Ah, eh bien, c'est ce qu'on verra, promesse peut-être tenue prochainement par votre équipe, Eric, avec notamment cette prochaine rencontre ce vendredi face au Havre à Jules Deschazeaux. Eric Maresser, le capitaine troyen, qui était avec nous sur RTL Équipe dans lundi soir de foot pour évoquer donc la dernière rencontre et la dernière défaite face à Nîmes 3-1. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous.
De rien.
Et à très bientôt sur RTL
Équipe. RTL Équipe, lundi soir de foot, la Ligue 2.
À 20h17 sur RTL, équipe à moins d'un quart d'heure du coup d'envoi de la dernière rencontre de la 33e journée. Donc cette affiche entre Évian, Thonon-Guéard et Le Mans au Parc des Sports d'Annecy. Mais avant cette rencontre, on va tout de même revenir sur les différents matchs qui ont eu lieu ce vendredi. Le rappel complet de tous les résultats: Ajaccio et Sedan qui se sont séparés sur un score nul et vierge, Reims qui a été battu à domicile par Dijon 2-1, Metz qui s'est imposé face à Boulogne-sur-Mer 3-1, Laval Laval a battu Le Havre 2-1. Nantes s'est imposé face à Angers 2-0. De partout entre Vannes et Istres. De partout également entre Tours et Grenoble. 3-1 pour Nîmes face à 3. On en parlait il y a quelques instants avec Eric Marester. Enfin, Châteauroux s'est imposé face à Clermont. 3-1. On va donc revenir sur ces différentes rencontres et on évoquait il y a quelques instants cette équipe de 3 donc, qui s'est de nouveau inclinée à domicile, inclinée face à Nîmes. Nîmes qui semble aller un petit peu mieux, en tout cas qui croit de plus en plus au maintien. C'est un peu ce qu'a pu expliquer notamment juste après la rencontre Thierry Froger, l'entraîneur du club de Nîmes, au micro de Frédéric Joly.
On n'a pas de tableau de marche, hein. Je pense qu'il faut prendre un maximum de points, plus que le 17e. Bon, je pense qu'on fait une bonne opération en gagnant chez eux, mais nous on fait une bonne opération aussi en gagnant ici, et ça va être un duel jusqu'au bout, et bon, c'est très intéressant pour la suite. Maintenant, nous, notre problème, c'est l'enchaînement. Il faut enchaîner et faire une série, et c'est pas une mince affaire. Bon, on a la mauvaise manie de se faire mener. Après, on joue, c'est pas qu'on n'a pas bien joué, mais en fait, on est inconstant, on fait des petites erreurs. Mais on a souvent réagi après être mené. Donc on a continué à faire ça, et bon, le pénalty, le fait de revenir avant la pause nous fait du bien.
Thierry Froger, l'entraîneur de Nîmes, qui était au micro de Frédéric Joly juste après sa victoire face à 3-1. Autre match qui s'est déroulé ce vendredi, la défaite du Havre à Laval, 2-1. Des Havrais qui ont peut-être dit au revoir définitivement ou presque à la montée en Ligue 1. Et Cédric Tory, vous allez l'entendre au micro de Thierry Lardeux, n'était pas forcément très content après ce match.
C'est un peu le symbole de notre saison. Au niveau de l'état d'esprit, on a été très présent. Au niveau du jeu, on a essayé d'en produire. On s'est créé multiples situations. On a été sérieux, mais on n'a pas été efficace. C'est le reflet de notre saison, malheureusement. Et une nouvelle fois, on le paye cash ce soir. Comme vous l'avez dit, on a eu une nouvelle fois l'occasion de concrétiser, de prendre l'avantage. On ne l'a pas fait. Et après, derrière, vous reverrez vous-même les images du pénalty, on va dire qu'on concède.
Cédric Dory, l'entraîneur havrais qui était au micro de Thierry Lardeux. Les Havrais donc qui s'étaient inclinés 2-1 à Laval. Des buts pour le Havre signé Rivière contre deux réalisations de Jeunesse et de Jérôme Lebouc sur pénalty, qui était avec nous après la rencontre dans le multiplex Ligue 2 RTL équipe entre 20h et 23h. Il a réagi notamment à cette victoire et, semble-t-il, à ce maintien quasi assuré des Lavallois.
C'était un match important pour l'optique du maintien. Nous, on fait absolument 43 points pour vraiment respirer. On joue contre une équipe qui joue encore la montée. Après, c'est un match un peu dans les deux sens, puisqu'on s'est procuré beaucoup d'occasions en première mi-temps, où on a logiquement le score. Ensuite, ils égalisent sur la seule occasion. Et puis voilà, notre gardien Mathieu Pichot, il a fait l'arrêt qu'il fallait sur le penalty. Et après, on a réussi à renverser l'intendance et c'est moi qui ai marqué sur le péno, donc c'est une très très bonne soirée.
Ouais, il peut être heureux, effectivement, le milieu de terrain offensif de cette équipe lavalloise, plus que jamais meilleur buteur du club Tango. 20h et 21 minutes sur RTL équipe. Je vous le rappelle, évidemment, dans 9 petites minutes à peine, la conclusion de la 33e journée de Ligue 2 avec le match. Et quelle affiche que vous allez pouvoir suivre sur RTL équipe, la rencontre entre Evian, Thonon-Gaillard et Le Mans. Mais on continue d'évoquer ces rencontres qui ont eu lieu vendredi, avec notamment un match et une victoire très précieuse, celle de Dijon à Reims, 2-1. Les joueurs de Reims qui ont marqué par Julien Toudic, alors que Dijon avait marqué par Béranguet et Younous Sankaré, l'ancien parisien qui a donc permis à ses Dijonais de s'imposer 2-1. Dijon aujourd'hui deuxième au classement. Younous Sankaré également, qui était dans le multiplex Ligue de RTL équipe après la rencontre, à Younous Sankaré qui peut-être trouve cela tout simplement incroyable de voir Dijon à cette position aujourd'hui.
Oui, c'est extraordinaire, mais si on est là aussi, c'est pas du hasard, on a bossé. Et puis on récolte aujourd'hui le travail qu'on a fait tout au long de l'année. Faut être réaliste, on a marqué contre le cours de jeu. On a beaucoup défendu, ça a été super difficile. Reims a bien joué. On savait qu'on allait avoir des contres. On a bien utilisé les coups de pied, qu'on a bien utilisé. Et voilà, après le fait qu'il marque, ça nous a fait un peu reculer. Mais bon, le fait qu'il pousse, et ça nous a permis d'avoir des situations de contre qu'on a bien négociées. Et puis aujourd'hui, la victoire, on va dire, c'est un match plein.
Oui, un match plein, en tout cas pour ces Dijonais qui n'ont pas été très fringants lors de cette rencontre, mais qui ont été ô combien réalistes avec donc cette victoire 2-1 sur la pelouse de Reims. Autre victoire qui est très précieuse. On passe du haut au bas de tableau, la victoire nantaise face à Angers, 2-0. Des buts signés Georgievich en première période et Couturier contre son camp, le joueur d'Angers. Et après la rencontre, Jonathan Martins Pereira, le défenseur nantais, évoquait cette rencontre. Une victoire pas forcément méritée, mais victoire quand même.
C'était un match compliqué, on est tombé face à une équipe d'Angers qui est venue jouer. Le spectacle pour nous n'était pas au rendez-vous, mais le plus important ce soir, c'est vraiment de prendre les 3 points et d'avancer pour le maintien.
On peut parler d'une victoire chanceuse.
D'une victoire courageuse, je pense plutôt. On a été solide défensivement, on a profité des erreurs de notre adversaire. Voilà. On les a souvent perdus ces matchs face à des équipes qui jouaient comme ça. Et voilà, ce soir, on n'a peut-être pas été bon, mais on a été efficace devant. On n'est pas sauvé ce soir, on sait très bien qu'il faut attendre au moins les 44 points, je pense, pour se maintenir. Donc voilà, il nous faut encore une victoire. Et je pense que le maintien sera assuré, puisqu'il y a les équipes qui s'affrontent derrière du bas du classement. Donc mais on a peur de rien. On sait qu'on va se maintenir, mais il faut être prudent quand même.
Ah, il a été clair, en tout cas, Jonathan Martins Pereira, le défenseur nantais, au micro de Philippe Audouin. On n'a peur de rien. On sait qu'on va se maintenir, au moins. C'est dit de l'autre côté, du côté d'Angers, forcément de la déception et pas qu'un peu. Jean-Luc Garcia, au micro de Philippe Audouin, l'entraîneur en juin, était particulièrement agacé, énervé par le contenu de cette rencontre.
C'est pas la meilleure équipe qui a gagné. On a été, je crois, dominateur. Malheureusement, on a fait cadeau du premier but sur une erreur individuelle très inhabituelle. On s'est pas départi de notre idée de jeu pour revenir. Et puis on a eu maintes occasions. On a fait preuve un peu de maladresse. On a un ballon sauvé sur la ligne un peu miraculeusement. Donc voilà, ça voulait pas sourire. Et puis on voit le calice jusqu'à la lie en se mettant un deuxième but malencontreux dans le temps additionnel. Donc c'est vraiment une soirée qui est difficile à digérer.
On le sent, hein, Jean-Luc Garcia, pas forcément très fier de ses joueurs après donc cette défaite angevine sur la pelouse de Nantes, 2-0. Allez, on descend encore un peu plus dans ce classement, précisément à la 17e place. Metz qui s'est imposé face à Boulogne-sur-Mer 3-1, une victoire messine ô combien précieuse. C'est ce qu'évoquait notamment Romain Brégerie dans le multiplex Ligue 2 RTL équipe, le milieu de terrain qui était avec nous sur notre antenne après la rencontre, le milieu de terrain messin qui évoquait toujours son espoir de maintien.
On n'avait pas trop le choix, on avait comme objectif ce soir de remporter cette victoire puisqu'on sait que les matchs à domicile vont être primordiaux pendant ce sprint final. On était sur une série négative comme vous l'avez dit, on a su y mettre la forme, notamment en marquant très rapidement, ce qui facilitait d'entrer dans ce match. Je sais qu'on a une équipe capable de faire de très bonnes choses, on a eu très peu de réussite ces derniers temps encore malgré nos bonnes performances. Donc on va vraiment s'attacher à garder cet état d'esprit très, très conquérant et très positif qu'on a affiché encore ce soir et sur les dernières rencontres à l'extérieur. Donc je pense que si on affiche le même état d'esprit sur les prochaines rencontres, on va être capable d'en embêter plus d'un.
Non, il l'a dit, Romain Brégerie également, ils sont capables de le faire, en tout cas de se maintenir. On le rappelle, Metz qui aujourd'hui est à la 17e position, la première position de non-relégable, mais avec le même nombre de points que le club de Nîmes. Et on le rappelle, tout prochainement, un certain Metz-Nîmes qui voudra son pesant d'or. Enfin, dernière intervention, celle de Karl Medjani, le milieu de terrain d'Ajaccio. Ajaccio qui a peut-être réalisé l'une des mauvaises de la soirée ce vendredi en concédant le nul à domicile face à Sedan, 0-0. Les Ajacciens en cas de victoire auraient été premiers à l'issue de cette journée. Ce n'est pas le cas, mais Karim Medjani, il n'est pas désespéré.
C'est sûr que ce soir on est un peu déçu du résultat final parce que bon, au vu des autres résultats, la bonne opération aurait été de gagner. On a fait une ensemble de matchs très poussifs où en première mi-temps on n'a pas réédité les performances qu'on pouvait faire à domicile cette saison. On a rectifié les tirs en deuxième mi-temps, en faisant une grosse deuxième mi-temps, en se créant beaucoup d'occasions nettes, notamment une à la 92e ou 93e minute. Mais malheureusement, ce soir, ça n'a pas voulu rentrer. On a 5 matchs encore à jouer, 5 finales. On sait que c'est très serré. Je pense que ça va se jouer entre 5-6 équipes. Donc voilà, on sait que tout est possible. Jusqu'à la dernière journée, on va se battre. Il faut juste digérer la déception de ce soir et se remettre au boulot dès demain matin pour repartir de l'avant.
Karl Medjani, le milieu de terrain ACEiste qui était avec nous juste après la rencontre et le match nul de l'AC Ajaccio face à cette équipe de Sedan 0-0. Prochain rendez-vous pour l'ACA, ce sera ce vendredi dans le multiplex 2 avec l'affiche entre Boulogne-sur-Mer et Ajaccio. Tous les matchs auront lieu à 20h sauf cette affiche qui débutera à 20h30. Dans 3 petites minutes à peine, le coup d'envoi de la rencontre entre cette équipe d'Evian, Thonon, Gaillard et cette équipe du Mans. Vous entendez les vagues de la foule, mais juste avant de suivre cette rencontre, une petite page de publicité. On se retrouve juste après donc pour le début de cette affiche de la 33e journée de L2. A tout de suite.
RTL L'Équipe, lundi soir de foot, le National.
Et donc on va pouvoir se focaliser sur le championnat de France de National avec la journée qui a eu lieu ce week-end et notamment revenir sur le club d'Alfortville avec son entraîneur Monsieur Megelati qui est avec nous. Bonsoir Zedine.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. L'équipe également avec nous comme tous les lundis, Erwan Penland de foot-national.com. Bonsoir Erwan. Et tout d'abord,
Bonsoir,
nous voulions revenir sur la dernière journée avec votre club d'Alfortville en grande difficulté à Zedine avec cette nouvelle défaite ce week-end.
J'ai presque envie de vous dire qu'on a été en difficulté, on ne l'est plus depuis quelques journées. On termine le championnat du mieux possible en sachant que l'UJA sera relégué en CFA.
On sent le défaitisme presque absolu, c'est difficile d'avoir cette attitude-là, non, cette position-là ?
Non, il n'y a pas de défaitisme, il y a surtout beaucoup de lucidité. On a tout mis en œuvre pour essayer de se maintenir, et en mettant tout en œuvre, nous n'avons pas réussi. Le constat est là. Non, il n'y a pas du tout de défaitisme, il n'y a pas du tout de... ni même d'amertume.
On le rappelle, hein, ce week-end, il y a eu la défaite face à Bastia, 4-0. Le Sporting, plus que jamais leader dans ce championnat de National. Erwan Penland de foot-national.com, ce club d'Alfortville, donc en National cette année, qui a eu énormément de difficultés, évidemment.
Oui, bah évidemment, ils sont en passe d'être relégués en CFA. Ce qu'on peut noter, c'est surtout que l'UJA n'a pas gagné un seul match à domicile. C'est sûr qu'à partir de là, c'est difficile de pouvoir se maintenir à ce niveau-là dans n'importe quel championnat qui puisse être. L'UJA a des problèmes de structure, hein, donc, pas vraiment de stade. C'est peut-être ce qui cause les problèmes arrivés au niveau national, hein, ce manque de structure du club. Comment M. Megelati peut-il expliquer, lui, de son côté, cette situation et cet échec du club francilien cette saison ?
D'abord, il était difficile de gagner le moindre match à domicile à partir du moment où le club est sans domicile fixe. Tout ça dit avec une pointe d'humour, mais tellement vrai. Avec le cahier des charges demandé et légitime, j'insiste, pour les installations au niveau national, on était déjà en difficulté au parc de Choisy au niveau CFA. Ce manque de structure qui existe à l'UJA est plus qu'un facteur limitant pour exister à ce niveau de compétition.
Et on le voit aujourd'hui, cette équipe donc a eu les pires difficultés à engranger le moindre point et la moindre victoire donc à la maison. Par contre, 5 victoires à l'extérieur, comment ça s'est fait ? Parce qu'en général, on se dit qu'une équipe, surtout quand elle est en difficulté à domicile, elle a également beaucoup de difficultés à l'extérieur. Comment vous avez fait pour avoir ces 5 victoires hors de vos bases ?
Tout simplement parce que lors de ces différentes victoires, que ce soit à Orléans, à Bayonne, je me souviens plus, je vais pas
dire. Plavennec, hein.
À Plavennec, qui ne sont pas pourtant des citadelles facilement prenables. La seule chose qui nous a permis de ramener ces points et donc ces victoires, c'est que ce jour-là, les joueurs étaient à 120%. Et j'insiste sur le 120% parce que la plus grosse difficulté de l'UJA cette saison a été, et Dieu que ce n'est pas une injure pour les joueurs, a surtout été une question de niveau de joueurs. de niveau de joueur. Il n'y a pas un joueur qui affiche une cinquantaine de matchs titulaires au niveau national.
Et on le voit encore une fois, ce résultat aujourd'hui à Alfortville qui va donc être probablement relégué en CFA. Mais quel peut être au final l'avenir d'Alfortville à Zedine?
Alors écoutez, moi je non pas que je refuse quoi que ce soit, et vous le savez bien, mais je ne vais pas trop m'exprimer sur le sujet, puisque mon retour au mois de décembre à l'UJA s'était fait dans le cadre d'un éventuel rapprochement avec le Racing Club de France, le Valois, que je dirige maintenant, sous couvert d'un maintien de l'UJA en national. Si l'UJA s'était maintenu en national, il y aurait eu un rapprochement entre le Racing et l'UJA. Donc, me concernant, je ne serai plus à l'UJA à l'issue de la dernière journée, c'est-à-dire le 20 mai. Parler du futur de l'UJA, malgré et surtout avec toute l'amitié que j'ai pour Gilles Baudu, le président, je pense que c'est pas à moi d'en parler. Mais... comme les difficultés rencontrées, parce qu'au moment où j'ai accepté de porter le projet de rapprochement entre le Racing et l'UJA, en me dédoublant, je vais dire, il y a une donnée que je n'avais pas. C'est le retrait ou le fait qu'un de partenaires importants ne tiendrait pas ses engagements financiers. Donc à partir de là, impossible de recruter. Et dès janvier, j'ai dit à Gilles Baudu, ça risque d'être très 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 compliqué.
Donc ça c'est acté, vous ne serez plus l'entraîneur d'Alfortville à l'issue de cette saison?
Ah non, je serai au Racing comme au début de saison. Non, je ne serai plus à l'UJA.
Et avec aujourd'hui donc cette équipe d'Alfortville, celle qui va être reléguée en CFA, a priori. Erwan Pelland de foot-national.com, votre regard, vous qui connaissez bien ce national, qui connaissez bien ce club d'Alfortville, selon votre expérience, qu'est-ce qui peut advenir peut-être d'Alfortville, Erwan?
Bah, c'est plutôt compliqué. Hein. Déjà, la montée en national était un élément... important pour le club, hein. c'est vraiment un gros niveau, la troisième division. Maintenant, c'est vrai que ça a été compliqué à mettre en place au niveau du recrutement, il y a eu beaucoup d'hésitations au niveau du staff, au niveau des joueurs. Ça n'a pas payé, ils vont retourner en CFA, espérons qu'ils puissent se maintenir à ce niveau, c'est ce qu'on peut souhaiter le mieux pour le club du président Baudu. Maintenant, pour Azine, comme il l'évoquait, il est également au Racing, il y avait un projet de fusion. Maintenant, le Racing est en passe de monter en CFA, c'est pas fait, hein, mais il y a de Calais qui était leader et ils reviennent à trois longueurs de Calais, donc ça va être vraiment un final au couteau entre Calais et le Racing, Sedan et Rouen-Orient. Maintenant, le Racing peut se retrouver en CFA avec l'UJA, donc c'est vraiment c'est le projet de fusion. Tout est à remettre à plat au niveau de ces deux clubs français à l'été prochain.
Et donc avec
d'autant plus Erwan, quand CFA 2, les quatre meilleurs deuxièmes montent aussi. Hein, donc on revient de très très loin, mais effectivement. On peut éventuellement retrouver le CFA dès la saison prochaine.
Mais je me permets de vous reposer cette question. C'est vrai que quand on vous entend, on le rappelle, Azedine Meghilati, entraîneur d'Alfortville et également entraîneur du Racing Levallois, quand on vous entend dire on peut monter en CFA ou on peut descendre en CFA, on va descendre en CFA, c'est vrai que c'est une position, encore une fois, quand on l'entend, c'est très particulier. Vous le comprenez, ça?
Je le comprends parfaitement. C'est vrai que la situation est particulièrement atypique. Mais comme j'ai pu le dire à un certain moment, doit-on vivre dans l'immobilisme? La proximité entre Gilles Baudu et moi-même a fait que Gilles a eu cette démarche de proposer ma mise à disposition pour essayer, et malheureusement nous n'avons pas réussi, essayer de maintenir l'UJA en national. Dans la perspective que j'évoquais précédemment. Maintenant, mon implication à l'UJA a été la même que la saison dernière et la même que celle que je peux avoir au Racing, même si j'ai des fonctions beaucoup plus élargies au Racing. Alors oui, particulièrement atypique. Maintenant, j'ai vraiment aucun regret, un peu fatigué, mais aucun regret. Ça valait le coup d'être tenté. Le principal frein Et ce qui a emmené l'UJA en CFA, c'est le retrait de partenaires au mois de décembre. J'ai l'intime conviction qu'avec un recrutement judicieux, chirurgical de 4, 5, voire 6 éléments, comme a pu le faire Colmar ou Rodez, si on avait pu réajuster l'effectif, je pense sincèrement, on le saura jamais maintenant, je pense sincèrement que nous aurions pu nous maintenir en national.
Azzedine Meghelati, l'entraîneur de cette équipe d'Alfortville qui était avec nous ce soir dans lundi soir de foot pour évoquer donc la situation du club francilien. Merci beaucoup Azzedine d'avoir été avec nous.
Merci, bonsoir, bonsoir Erwan.
Mais Erwan Penland, restez avec nous très rapidement évidemment. On va débriefer les autres résultats de cette journée de National avec une affiche qui avait lieu ce week-end entre le 2e Amiens et Strasbourg le 4e. Résultat, aucun vainqueur, un partout.
Oui, Amiens qui pouvait monter en Ligue 2 en cas de victoire, ça n'a pas été le cas. On a eu un but partout qui n'arrange pas les Strasbourgeois et Amiens reste avec une marge de sécurité assez confortable pour la montée en Ligue 2.
Et Strasbourg tout de même qui ne perd pas tous ses espoirs puisque Guingamp 3e n'a fait que match nul à Luznac.
Oui, Guingamp était tenu en échec par une équipe de Luznac décidément accrocheuse hein, qui va accrocher Strasbourg il y a quelques semaines. C'est un bon point pour Guingamp du fait que Strasbourg ait été tenu en échec également parce que les Guingampais joueront un match de plus que Strasbourg d'ici la fin de saison.
Par contre, l'équipe qui a quasiment dit adieu à ses rêves de montée, c'est Cannes qui n'a pu faire également que match nul à Orléans.
Oui, Cannes savait depuis longtemps hein, que la montée était finie. Ils ont été tenus en échec par Orléans qui est une belle équipe de National et voilà, c'est plutôt logique.
Le bas de tableau à présent avec un match qui était très important et aucun vainqueur entre ces deux équipes, entre Rodez et Bayonne, et également dans les autres rencontres pour observer Colmar qui a perdu à Passy-sur-Eure.
Et Rodez-Bayonne un match nul, mais c'est Bayonne qui sort vainqueur au point parce qu'en cas d'égalité entre ces deux équipes, Bayonne ayant gagné au match aller, c'est Bayonne qui sera devant Rodez, ces deux équipes finissent à égalité. Du coup voilà, c'est un petit coup dur pour Rodez qui est un calendrier difficile en fin de saison et Passy-sur-Eure qui se relève au fur et à mesure grâce à cette victoire sur Colmar. Colmar qui était bien revenu ces dernières semaines mais qui perd là 3 points précieux, un candidat direct au maintien, donc c'est un gros coup dur pour les Alsaciens.
Enfin les rencontres de milieu de tableau plutôt avec Créteil qui s'est imposé face à Niort 4-2 et Gap qui a obtenu le nul à Beauvais 1-1. Attention aux Gapensais qui n'ont pas beaucoup d'avance sur la zone rouge.
Ouais, la zone rouge est très très serrée et Gap a pris un bon point à Beauvais, hein, parce que Beauvais est une équipe du haut de tableau, mais ça reste une situation tendue pour les Gapensais qui restent avec un point d'avance sur le premier relégable.
Erwan Penland pour... Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi.
Du côté de Créteil et Niort, les deux équipes devraient se maintenir, même si Niort n'a plus que 7 points d'avance, mais il ne reste que 4 journées, ça devrait pouvoir le faire pour les Chamois.
Erwan Penland pour toute l'actualité du National, du CFA, du CFA2 et de l'ADH. Erwan Penland de foot-national.com. Merci beaucoup Erwan d'avoir été avec nous.
Merci, salut, bonne soirée.
Et à très bientôt sur RTL Équipe.
RTL Équipe, lundi soir de foot, Salim Bongali.